Bonsoir Fabienne Sintès.
C'est vrai que contractuellement, voilà, là maintenant je peux parler.
Voilà,
avant,
c'est parti.
C'était interdit, j'avais pas le droit. Après, merci beaucoup Marie-Marine. Allez, à demain les filles. Pour nous, c'est maintenant que ça commence. Le 18-20 de France Inter ouvre maintenant. Ravi de passer ces deux heures avec vous. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Bonsoir Céline Aslo.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, Kenji Girac aurait dit avoir voulu simuler un suicide.
Oui, sa blessure par balle ne résulte pas d'une manipulation accidentelle, comme le chanteur l'avait d'abord affirmé. Les enquêteurs ont aussi exclu l'intervention d'un tiers. Le procureur de Mont-de-Marsan a levé une partie du mystère au cours d'une conférence de presse. On y revient au début de ce journal. Emmanuel Macron plaide à nouveau pour l'Europe de la défense avec pourquoi pas un bouclier antimissile. On détaillera le discours du chef de l'État consacré à l'avenir de l'Union européenne. Il faut mieux se préparer au risque de catastrophe climatique ici en France. C'est le message de la Croix-Rouge qui rendait tout à l'heure son rapport sur la résilience de la société française.
Et on en parlera avec Philippe Dacosta, c'est le président de la Croix-Rouge française et c'est l'invité de ce journal.
La mort d'une palme d'or, le cinéaste Laurent Cantet est décédé à l'âge de 63 ans. On l'entendra tout à l'heure sur le succès de son film Entre les murs. Dans l'actualité aussi, la Joconde doit-elle quitter le Louvre? Une mystérieuse association réclame sa restitution. Le Conseil d'État se penchait tout à l'heure sur cette étrange demande. Et puis de la poésie ce soir au printemps de Bourges, avec une jolie création que nous présente Mathieu Culeron depuis le festival.
Dans le 18-20 ce soir, en trois mots, ça commence avec des œillets, ceux du Portugal qui ont 50 ans dans un pays rattrapé par les fantômes d'avant. Ce sera le décryptage d'un jour dans le monde. Il y a aussi du steak de baleine ce soir, japonais. Le Japon qui a inauguré un nouveau baleinier et qui veut même faire partager cette viande aux touristes. Il y a aussi des journalistes, des Slovaques, habillés tout en noir. Céline Aslo, vous nous expliquerez pourquoi. Ce soir, vous verrez aussi dans le monde à 18h50 que les Israéliens désespèrent d'avoir des nouvelles de leurs otages. Et Stéphane Jourdain, dans la Tech la première, nous racontera combien la Russie est en train de pilonner la France en propagande et autres fake news. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne. On parle des élections européennes ce soir. On a envie de savoir si vous êtes dedans, si vous êtes intéressé, si vous suivez ou s'il faut un peu vous élitreuiller pour vous intéresser à ce scrutin. Allez, allons-y.
France Inter.
Que s'est-il passé donc dans la caravane de Kenji Girac au cours de la nuit de dimanche à lundi?
Question qui provoque depuis quelques jours beaucoup de curiosité, beaucoup d'hypothèses aussi, tant il semblait difficile de savoir ce qui avait mené le chanteur de 27 ans à l'hôpital, victime d'une blessure par balle au thorax. Il faut dire qu'une forme d'omerta a marqué le début de l'enquête, c'est ce qu'indiquait tout à l'heure le procureur de Mont-de-Marsan au cours d'une longue conférence de presse très détaillée. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Et selon ce procureur, Kenji Girac a donc voulu simuler un suicide.
Ah oui, la soirée de dimanche dernier est décrite par le procureur comme tendue entre Kenji Girac et sa compagne. Le chanteur boit beaucoup, il avait plus de 2,5 g d'alcool par litre de sang quand les secours sont intervenus. Il prend de la cocaïne aussi dans la nuit. Le couple se dispute, elle menace de le quitter, d'où la suite relatée par Olivier Janson, le procureur.
Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ et qu'il a, à son tour, voulu lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas.
Voilà donc pour la version de Kenji Girac livrée hier aux enquêteurs. Vous vous doutez que les gendarmes ne se sont pas contentés de son récit. Ils ont analysé la scène. Au moment du tir, le chanteur était dans sa caravane près du mur.
La présence d'un tiers est matériellement impossible. Il n'y a pas la place, concrètement, entre le mur extérieur et Kenji Girac pour qu'un tiers se trouve à cet endroit-là.
On ne peut pas être poursuivi pour tentative de suicide. L'enquête devrait donc s'arrêter bientôt. Quant à l'arme, le procureur ne croit pas à la version selon laquelle elle a été achetée sur une brocante. Mais il annonce qu'il ne poursuivra pas l'artiste pour ce fait. Kenji Girac a failli mourir, il dit regretter. La loi, précise Olivier Janson, doit dissuader. Et en la matière, juge le procureur, la leçon a été largement entendu.
Merci pour ces précisions, Ariane Grissel du service police-justice de France Inter. L'Europe peut mourir et cela dépend essentiellement de nos choix. Dans un grand discours que beaucoup d'opposants ont qualifié d'entrée en campagne, Emmanuel Macron a dressé le bilan de l'état de l'Europe et a présenté ses préconisations sur l'économie, la politique commerciale, les investissements, mais aussi et peut-être surtout sur la défense. Angélique Bouin, le chef de l'État souhaite la création d'une initiative européenne de défense crédible, notamment face aux missiles russes.
Les règles du jeu
enjeux ont changé, dit le président, du fait de puissances désinhibées comme la Russie ou l'Iran. Il appelle à un réveil face au réarmement généralisé du monde. Il faut bâtir, dit-il, une initiative européenne de défense qui pourrait inclure un bouclier antimissile européen, une sorte de dôme de fer, une idée déjà sur les rails à l'initiative de l'Allemagne, que la France a dans le passé vivement critiquée car les technologies envisagées par Berlin sont américaines, israéliennes et allemandes. Le chef de l'État a aussi appelé à accélérer la création déjà prévue d'une force rapide d'intervention européenne de 5000 militaires et à unir les forces des 27 en matière de cybersécurité. Et pour financer une industrie européenne de défense à la hauteur des enjeux, il soutient l'idée d'un nouvel emprunt commun de 100 milliards d'euros, proposition de la première ministre estonienne, auquel Berlin est très opposé. Avec le dérapage actuel des comptes publics en France, ce sera difficile pour Paris de convaincre le chancelier allemand et les pays dits frugaux. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Le scandale avait marqué le début du mouvement MeToo et la libération de la parole des femmes dans le cinéma. 4 ans après la condamnation d'Harvey Weinstein pour abus sexuels, la cour d'appel de New York vient d'annuler le jugement. Elle estime que le juge, à l'époque, avait commis une erreur en laissant témoigner à la barre des femmes dont les accusations n'avaient pas été retenues dans le dossier. Annulation profondément injuste, réagit à l'instant un groupe de victimes. On part à New York dans le journal de 19h. Il s'agit d'une violation grave et inacceptable des droits et libertés fondamentales. La France dénonce avec vigueur la condamnation à mort du rappeur iranien Tomaj Salehi. Le musicien de 33 ans avait soutenu via ses chansons et sur les réseaux sociaux le mouvement de contestation contre le pouvoir. Il est en prison depuis octobre 2022. En Afrique de l'Est, la saison des pluies est meurtrière cette année. 155 personnes sont mortes en Tanzanie, 13 au Kenya, en raison d'inondations et de glissements de terrain sous les fait du phénomène El Niño et du changement climatique.
La suite, c'est en France. Sommes-nous suffisamment prêts au risque de catastrophe climatique ?
La réponse est non, selon la Croix-Rouge, qui rend ce soir un rapport sur la résilience de la société française. Canicule, sécheresse, inondation, ces événements s'invitent de plus en plus souvent dans le quotidien des Français. Mais ils ne sont pas prêts à y répondre. Ce rapport formule une série de recommandations. Par exemple, se former davantage aux gestes qui sauvent ou préparer chez soi un kit d'urgence en cas d'évacuation.
Bonsoir Philippe Dacosta.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Croix-Rouge française. Tiens, on va revenir justement sur ce que disait Céline à l'instant, à la fois les gestes qui sauvent et préparer un kit d'urgence en cas d'évacuation. Moi, ce qui me frappe dans les gestes qui sauvent, par exemple, vous avez évidemment raison, 40% des Français, 80% des Allemands, mais ça veut dire qu'il n'y a pas seulement aux crises climatiques qu'on n'est pas formé. C'est aux crises tout court, hein, en fait. C'est même plus que ça, non ?
Oui, en effet, je pense que le fait est que près de 44 millions de Français sont par exemple exposés au risque d'inondation aujourd'hui dans notre pays. Et donc les Français restent mal préparés ou se sentent mal préparés face aux événements extrêmes. Et donc il y a un vrai enjeu à promouvoir non seulement les gestes qui sauvent, mais aussi les comportements qui sauvent, de manière à ce que chaque citoyen se sente aussi concerné par les crises.
Et alors chaque citoyen, Philippe Dacosta, est-ce que ça veut dire ce fameux kit d'urgence ? Est-ce que c'est pour tout le monde, où que l'on soit ? Ou est-ce que justement, dans la culture du risque, il y a aussi savoir où je vis et donc ce que je risque et à quel moment.
En effet, c'est aussi connaître son territoire, connaître son lieu de vie. Mais lorsque la Croix-Rouge française promeut son sac d'urgence, c'est tout simplement la prise de conscience de ce qu'est d'avoir une radio à pile près de soi, d'avoir une trousse de premier secours, une lampe de poche. Et c'est autant d'objets qui permettent aussi de sensibiliser aux risques. Et c'est aujourd'hui seul un Français sur 10 à préparer ce type d'outils. Et nous pensons que ça peut être une façon de se mobiliser et de sensibiliser la population à ces risques.
Ça veut dire aussi, vous dites qu'il faut du stock de matériel quelque part, il faut des moyens logistiques et ça aussi c'est intéressant. Il faut que à la fois ce soit nous à titre individuel qui soyons plus prêts, mais aussi la collectivité à laquelle nous appartenons, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre.
En effet, l'expérience acquise par la Croix-Rouge française dans les Outre-mer avec des plateformes d'intervention logistique nous convainc de la nécessité d'élargir ce prépositionnement de matériel, mais pas seulement du matériel, c'est aussi la sensibilisation, la formation des citoyens, et puis aussi la prise en compte des risques en matière de santé mentale de nos concitoyens, parce que quand ils perdent un bien, ils perdent beaucoup et il faut accompagner la population face à ces nouveaux risques.
La culture du risque, vous le disiez, nous ne l'avons pas, les Français le disent aussi d'ailleurs, hein, parce parce qu'ils disent qu'ils ne se sentent pas préparés à 75% aux inondations, à 73% aux incendies de forêt, à 59% à la canicule. Donc ils le savent, ça veut dire que finalement, on n'est pas loin. Mieux se préparer au feu, aux inondations, c'est-à-dire fuir, avoir son sac, on peut comprendre. Mieux se préparer à la canicule, ça peut être quoi ?
Bah, tout simplement, les points d'eau, l'accès à l'eau, des points de fraîcheur. Nous poussons notamment à côté du plan grand froid qui est installé dans le paysage, installer un plan grand chaud. Parce que il faut avoir aussi une attention particulière vers les plus fragiles, les plus vulnérables. Et c'est vrai que l'accès à l'eau potable, l'attention aux personnes sans abri, aux mal logées, c'est aussi près de 4 millions de nos concitoyens qui sont concernés, avec 350 000 personnes qui sont sans abri.
Vous suggérez de créer un corps de volontaires pour intervenir également, qui se déploierait où? Ou comment, sur le même modèle au fond que les pompiers volontaires, c'est ça que vous dites, Philippe Dacosta, mais qui serait vraiment dévoué à ça?
Nous pensons qu'il y a aujourd'hui toute une jeunesse que nous pouvons sensibiliser aux risques climatiques et qui peuvent rejoindre des associations agréées de sécurité civile et prendre leur part et devenir volontaires pour s'engager, sensibiliser la population, former la population et accompagner face aux risques.
Et en même temps, on n'est pas très loin, Philippe Dacosta, et c'est tant mieux, parce que ce que je retiens aussi de votre étude, c'est 9 Français sur 10 sont prêts à apporter de l'aide à leurs voisins. Et ça compte ?
Il y a une grande générosité chez nos concitoyens. Il faut qu'on les mobilise, qu'on les sensibilise, qu'on les forme. Et nous pensons que c'est l'affaire de chacun. C'est un acte de citoyen, c'est un acte d'engagement qui nous concerne tous là où nous vivons.
Allez, que chacun aille préparer son sac, son kit. Philippe Dacosta, président de la Croix-Rouge française. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi la RATP qui propose des primes JO aux conducteurs du métro et du RER. Bonsoir, Maxime Debs.
Bonsoir.
Au terme des négociations avec les syndicats, la direction met sur la table une prime de 1600 euros pour les agents qui travailleront pendant l'été.
Oui, une somme qui pourra monter même jusqu'à 2500 euros pour ces agents de conduite les plus assidus, les plus volontaires qui resteront à Paris pour les Jeux. Une prime au niveau des attentes, genre de proposition qu'on ne peut difficilement refuser, reconnaît Bastien Berthier, qui représente les conducteurs RER et métro pour Force Ouvrière.
Il n'y a pas de problème, l'entreprise reste sur l'accord qu'on a hier soir, nous on s'engage.
FO qui pèse 72% dans l'équilibre syndical et dont la signature suffirait pour valider l'accord. De quoi motiver les troupes et garantir un nombre suffisant de conducteurs cet été pour tenir la cadence. 1600 euros de prime de base pour les agents de conduite qui s'asseyeront sur leur congé. Prime qui pourra, je vous le disais, monter jusqu'à 2500 euros à condition de remplir vraiment toutes les cases. En somme, ça ne concernera qu'une toute petite poignée d'agents.
Pour toucher 2500 euros, il faut être présent sur toute la période du 22 juillet au 8 septembre. Il faut que le collègue soit présent non-stop. Et il faut qu'il soit sur des lignes qui sont très fortement impactées par les Jeux Olympiques. Parce que chaque ligne ne touchera pas le même montant de prime à l'acte.
Et certaines lignes seront en effet beaucoup plus sollicitées que d'autres. On pense à la ligne 9 du métro qui conduit au Parc des Princes à Roland-Garros, au RERB qui mène au Stade de France, au Village Olympique, où les cadences ne seront pas les mêmes. Normal qu'il y ait des compensations, réagit ce soir Jean Castex, le président de la RATP.
Merci Maxime Debs, service économique et social de France Inter. Et puisqu'il est question de transport, le salon de l'automobile de Pékin vient d'ouvrir ses portes, l'occasion pour les géants chinois de tenter d'attirer de nouveaux clients, notamment dans le secteur ultra concurrentiel de l'électrique. Il existe 129 marques de voitures électriques en Chine. Le pays est de loin le leader mondial, tout comme sur les panneaux solaires. La Chine en produit tellement qu'elle fait face à un phénomène de surcapacité. Les géants chinois du solaire, contraints de licencier. C'est une enquête de Sébastien Berriot à Xi'an, dans le centre de la Chine.
En apparence, tout semble normal ici dans la grande banlieue de Xi'an, devant cette immense usine du groupe LONGi, le leader mondial des panneaux solaires. Mais l'activité est en réalité réduite. Le site est en train de se séparer d'une partie de son personnel, nous confirme cet employé qui prend son service.
En ce moment, il y a des licenciements. La moitié de notre équipe a été licenciée. Je ne sais pas encore si je serai concerné, mais ce sera peut-être le cas.
Les panneaux solaires chinois, victimes de leur succès, il y a trop de fabricants et les invendus s'accumulent dans les entrepôts. LONGi reconnaît vouloir licencier 5% de ses 80 000 employés en Chine, mais ce commerçant qui travaille devant l'usine de Xi'an estime qu'ici, c'est beaucoup plus.
On est plutôt autour de 30% de licenciements. Je vends de la nourriture devant l'usine depuis des années, alors bien sûr, je le sais tout ça.
Parmi les personnes déjà licenciées, cette mère de famille.
J'ai été convoquée par le département des ressources humaines et on m'a notifié mon licenciement. On m'a expliqué que le marché n'était pas bon. J'ai l'impression que c'est parce que le produit ne se vend pas bien.
Mais malgré ce contexte difficile, les géants chinois des panneaux solaires font tout pour conserver leur rang de leader mondial. Tout en licenciant sur certains sites comme celui de Xi'an, ils investissent aussi en parallèle sur de nouvelles usines plus performantes, en particulier à l'étranger. Xi'an, Sébastien Berriot, France Inter.
La Joconde doit-elle être radiée des collections du musée du Louvre, hein ?
C'est la question à laquelle va devoir répondre le Conseil d'État, saisi par une association qui réclame la restitution du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, estimant que le roi François Ier s'est approprié le portrait de Mona Lisa. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Cette étonnante demande provient d'une association intitulée International Restitution, dont on ne sait finalement pas grand-chose.
Ah oui, l'association a changé ses statuts récemment après plusieurs échecs devant les tribunaux administratifs en France pour obtenir notamment le départ de différentes œuvres en Chine. Là, ce serait donc pour un retour en Italie pour la Joconde au profit officiellement des héritiers de Léonard de Vinci et du peuple italien. Mais en ne venant pas physiquement à l'audience au Conseil d'État avec vue sur le Louvre, en ne prenant pas d'avocat très spécialisé, celle ou celui qui se cache derrière cette mystérieuse association a quelque peu plombé sa requête. Les réquisitions du rapporteur public ont duré quelques minutes. C'est étonnant que l'association remette en cause à ce point l'origine de l'appropriation de la Joconde par François Ier, selon elle, après la mort de Léonard de Vinci, quand les historiens s'accordent à dire que le tableau du maître aurait été cédé lorsque Léonard de Vinci a trouvé refuge en France. Mais cette histoire, selon le rapporteur, de toute façon n'a rien à voir avec des spoliations d'œuvres comme lors de la Seconde Guerre mondiale, rappelant que l'inscription de la Joconde au patrimoine du Louvre ne dépend pas juridiquement de ce qui s'est passé il y a 500 ans et de réclamer le rejet complet de cette requête visant à retirer du musée parisien le joyau de la Renaissance.
Merci Emmanuel Leclerc, et on devrait connaître la décision du Conseil d'État d'ici 2 à 3 semaines. Lui fait partie des rares Français à avoir décroché la Palme d'Or à Cannes. C'était en 2008 pour son film Entre les Murs, qui racontait le quotidien d'un collège du Nord-Est parisien. Laurent Cantet est mort à l'âge de 63 ans des suites d'une maladie. Il y a quelques années, sur France Inter, le cinéaste était revenu sur la liberté qu'il avait gagnée avec cette Palme d'Or.
Ça m'a certainement rendu possible le film que j'avais envie de faire à ce moment-là, qui était Foxfire, qui était un film plus cher que tous mes films précédents, qui par ailleurs que je voulais par ailleurs faire exactement comme j'avais envie de le faire, c'est-à-dire comme je travaillais habituellement, sans un casting imposé, et à l'étranger, oui bien sûr, et c'est vrai que je pense que la Palme d'Or et puis le succès commercial aussi d'Entre les Murs a rendu possible cette aventure.
Laurent Cantet au micro d'Augustin Trapenard. Le Festival de Cannes salue la mémoire d'un humaniste acharné qui cherchait la lumière malgré la violence sociale, qui trouvait l'espoir malgré la dureté de la réalité. Et puis il fait partie des signes comme le retour des bourgeons, l'ouverture des terrasses qui montrent que l'été n'est finalement plus si loin. Le printemps de Bourges a ouvert ses portes avec une grande place faite cette année à la poésie, aux œuvres littéraires. Ce sera le cas notamment ce soir avec cette collaboration entre la musicienne Lucie Antounès et la comédienne Anna Mouglalis. Et c'est Mathieu Culeron qui nous présente ce projet.
Les deux artistes se rencontrent sur une adaptation des Sorcières de Mona Chollet. Cette fois, pour le printemps de Bourges, Anna Mouglalis et Lucie Antounès adaptent Les Guerrières de Monique Wittig, un texte de 1969 d'une très grande liberté. Lucie Antounès.
Sur cette créale-là, l'idée c'était quand même de contourner la lecture musicale et de faire vraiment un concert. Moi, j'ai fait un morceau qui s'appelle La Chair avec sa voix et un texte qu'elle a écrit. Et ce qui m'amuse, c'est de mettre sa voix en musique. Non seulement le texte est fort, mais la voix d'Anna, elle le porte. Et c'est une voix qui est très musicale parce que du coup, on peut en faire plein de choses. Ça peut être une matière sonore et ça peut être aussi juste du texte. Je vois, à chaque fois que je fais un projet, j'ai envie qu'elle soit là.
La musique de Lucie Antounès qui a su épouser les graves de la voix d'Anna Mouglalis, l'actrice qui a fait une plongée dans l'univers électro de la percussionniste.
La puissance lyrique de Lucie Antounès, la capacité à faire des montées, mais enfin, sans arrêt, c'est quelque chose qui, moi, me donne une liberté folle, folle.
Anna Mouglalis et Lucie Antounès à Bourges, l'une des créations consacrées au grand texte et à la poésie, dans un palais Jacques-Cœur, rebaptisé pour l'occasion le palais de la poésie.
Les surfaces opaques et les grandes mains sèches ne lui donnent rien, tout au plus un écho.
Et puis, reportage de Mathieu Culeron depuis le printemps de Bourges qui se poursuit jusqu'à dimanche.
La puissance de cette voix-là, Céline Aslo, merci. À tout de suite dans Sous les radars. Avant cela, on jette un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Dit Calac des averses demain.
Et oui, sur la plupart des régions, un réveil encombré avec quelques averses. L'instabilité se renforcera pour l'après-midi. Les averses pourront s'accompagner d'orages, en particulier des Pyrénées jusqu'au nord-ouest. Les averses seront déjà plus marquées le matin, également vers la basse vallée du Rhône, la Provence, les Cévennes, puis à l'est du Rhône pour l'après-midi. Ce sera de la neige sur les Alpes et le Massif central, vers 1300 à 1500 mètres le matin, puis 1700 mètres l'après-midi sur les Alpes et les Pyrénées. Mais on trouvera quand même quelques éclaircies appréciables entre ces averses demain, notamment dans l'est l'après-midi, et même de bons moments de soleil, des Pyrénées jusqu'au Languedoc-Roussillon, en Corse, et puis aussi sur le littoral atlantique pour l'après-midi.
Et des températures en hausse progressive.
Oui, le risque de gelée ne concernera plus que les massifs demain matin. Il fera souvent 3 à 10 degrés en plaine, et puis l'après-midi, 12 à 16 degrés au nord et 14 à 19 au sud, ça remonte doucement.
Allez, Élodie Calac de Météo France, merci. On se retrouve tout à l'heure, ce sera juste après le journal de 19h. Ce soir, nous sommes au Portugal, 50 ans après les œillets. Nous sommes aussi sur un baleinier japonais.
On arrive à découvrir couper une baleine en environ une heure à la main avec des gros couteaux. Les morceaux sont mis en sac pour être congelés en mode rapide en 6 heures à moins 40 degrés.
Et ce sera un reportage signé Karine Nishimura. Ce soir, nous sommes aussi devant un kebab géant en Allemagne avec les otages israéliens à Gaza et face aux Russes qui nous pilonnent de fake news. Ce sera la tech la première juste avant 19h. Et puis dans le téléphone sonne en deuxième heure, nous avons mis les élections européennes ce soir. Que vous ayez suivi ou pas le discours fleuve d'Emmanuel Macron sur l'Europe, c'était une manière de relancer la campagne, en tout cas dans son camp. Une campagne tout court qui, elle, est partie. Les enjeux ne vous ont pas échappé. La place de l'extrême droite, et pas seulement chez nous, la gauche en trois listes, l'immigration, l'environnement, la guerre. Mais où en êtes-vous, vous ? Est-ce que vous êtes dedans ? Est-ce que cette élection vous intéresse ? Est-ce que vous votez européen ? Est-ce que vous votez français ? Ou est-ce que vous en êtes à moins de 6 semaines du scrutin maintenant ? 01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous, et c'est le même chemin par WhatsApp.
Ce samedi sur Inter, la radio de...
Alors moi, évidemment, vous m'avez entendu peut-être faire des sketchs sur France Inter depuis quelques années. C'est Thomas VDB qui vous parle et c'est ma radio.
Pendant une heure, les artistes partagent la playlist de leur vie.
Ben c'est moi qui gère la programmation. Je vais pouvoir mettre tous les morceaux que je veux. Les albums qui me mettent des tartes, hein, qui me mettent des tartes dans la tête aussi.
La radio de...
La radio de Thomas VDB.
C'est ce samedi sur Inter à partir de 21h.
Et j'espère que vous allez m'envoyer plein de mails en me disant hey, « t'as vraiment des goûts géniaux, Thomas VDB ».
Allez, le monde est vaste et on n'a pas toute la journée. On y va ?
France Inter, le 18-20, Fabienne Synthèse.
Un jour dans le monde, c'est un jour au Portugal ce soir.
Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das forças armadas portuguesas.
Ça fait rire notre invité d'entendre ce moment d'archive le 25 avril 1974, juste après donc que les forces armées aient réussi à occuper les locaux de la radio-télévision portugaise. Bonsoir Ana Navarro Pedro.
Bonsoir, bonne nuit.
Vous êtes correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais Viçao. Qu'est-ce qu'ils savent les jeunes portugais aujourd'hui de ce qu'on vient d'entendre là ? Moi je vous ai vu réagir, on sent bien que ça parle aussi à votre vie, à votre histoire. Mais qu'est-ce qu'on sait de cette dictature, de sa puissance, de sa violence ? Qu'est-ce qu'on transmet au Portugal ?
Je pense, on essaie de transmettre, il y a des programmes d'école, évidemment, il y a eu des feuilletons, des séries sur ce temps-là au Portugal. Il n'en reste pas moins que les jeunes, souvent, au sein même des familles, disent « mais je ne veux pas connaître ce temps-là, je ne veux pas savoir ». J'ai entendu dire une fois Tiago Rodrigues, plus jeune, le grand metteur en scène, maintenant directeur du Festival d'Avignon, qui disait « mais vous savez, ce temps-là, pour moi, est aussi exotique que les Antipodes, que l'Australie ». Donc, c'est un peu cette réaction-là, parce que c'était parce que c'était un pays pauvre, parce que c'était un pays en retard économique, en retard sociétal, en retard social aussi.
Mais ça veut dire qu'on sait même pas, enfin qu'on ne réalise plus que justement chaque avancée au Portugal, que ce soit les mouvements féministes, la libération de la femme, tout, mais et pas seulement vraiment libération sexuelle, etc., école, santé, Tout ça vient de 1974. Ça veut dire qu'on l'a oublié, en fait.
Oui, mais maintenant, les points de repère sont européens, aux mondiaux, aux globaux, mais pas par rapport au passé. Mais hier, cette nuit, j'étais très surprise parce qu'il y a eu plein de petites vidéos sur les réseaux sociaux de ce qui se passait à Lisbonne et dans Portugal. Et ce que j'étais très, très surprise de voir beaucoup, beaucoup de jeunes qui étaient dans la rue et qui chantaient à plein poumon la chanson qui a été interdite et qui a été le déclencheur du mouvement.
La chanson de minuit, le fado de minuit. Ouais.
Et ils connaissaient cette chanson par cœur, et elle passait un peu partout.
Mais donc, du coup, c'est du folklore, en fait.
Non, parce que c'est une chanson engagée, parce que c'est une chanson qu'on n'écoute pas très souvent au Portugal, il faut bien le dire. Je crois qu'elle est devenue un symbole, plus que du folklore.
Parce que la raison, évidemment, pour laquelle je vous pose cette question, c'est que c'est le même Portugal qui célèbre la même année les 50 ans de cette révolution-là, donc ce moment de bascule qui a été fondamental, mais aussi ce même Portugal qui, depuis cette année, depuis le mois de mars, doit composer avec une législature faite désormais d'extrême droite, d'un gouvernement centre-droit et d'une extrême droite qui est arrivée. Et on se dit finalement que cette concomitance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'elle nous dit on a la mémoire courte? Ou est-ce qu'elle nous dit que c'était un autre temps? Voilà, le Portugal d'aujourd'hui, c'est celui-là aussi.
Tous les peuples ont la mémoire courte, hélas. Elle nous dit aussi que le Portugal, pas plus qu'un autre pays, n'échappe pas au mécontentement des citoyens vis-à-vis de ceux qui les gouvernent. Un sondage sorti aujourd'hui même au Portugal le prouve. 51% des personnes sondées disent qu'ils sont insatisfaits du fonctionnement de la démocratie au Portugal. Et 67% disent même qu'ils croient que les dirigeants politiques portugais ne se soucient pas de la vie des citoyens et de leur bien-être. Ce n'est pas nouveau. On avait déjà eu ça auparavant, pendant la grande période d'austérité au Portugal. Et c'est l'extrême droite que vous venez de référer à... fait une telle percée cette année même de la chute de la dictature, c'est aussi peut-être à cause de ça.
Alors mais justement, c'est la soudaineté de la percée qui reste étonnante, parce qu'on a toujours eu le sentiment, justement, parce que autour, tout ce que vous décriviez existait autour, et notamment chez nous, en France, chez vos voisins immédiats, les Espagnols avec Vox, et on se disait toujours, mais le Portugal, lui, est immunisé contre ça. Moi, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on pensait que le Portugal était immunisé? Est-ce que c'était une espèce de fantasme qu'on se faisait, d'une espèce de modèle portugais qui, pour vous, à l'intérieur, était loin d'être un modèle?
Alors, c'était un fantasme qui n'était pas que français ou européen, c'était un fantasme partagé aussi par des analystes portugais. Moi, je me suis toujours inscrite contre cette idée, parce que je ne travaille pas souvent sur le Portugal, puisque je suis en poste à Paris, mais quand j'allais dans le pays, je pouvais parler très librement avec des gens dans un pays, dans l'intérieur du pays, qui me parlaient en toute confiance, et je voyais bien qu'il y avait cette frange qui se développait, qui grandissait au Portugal, d'un vote protestataire, d'un vote plutôt prêt à aller vers des chemins populistes et à essayer des mouvements peut-être plus rudes, plus rugueux, si vous voulez, pour ne pas dire d'extrême droite. Et j'ai toujours dit que le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'offres, il y avait une demande électorale. Il n'y avait pas d'offres parce que ce segment ultra-conservateur, ultra-libéral était occupé au Portugal. Il l'est toujours par un parti qui est un parti de gouvernement, petit certes, mais de gouvernement, le CDS, mais qui est un parti qui, par son appartenance, par ses statuts, est un parti qui représente plutôt les intérêts de la très haute bourgeoisie portugaise, de certains milliers
économiques. Donc il manquait la petite classe, il manquait les jeunes, en fait, et il y a cette... le Chega, c'est comme ça que s'appelle l'extrême droite.
Ça veut dire ça suffit,
a pu se rentrer dans cet interstice-là, en fait.
Il a complètement entré dans cet interstice, et je pense que son leader, André Ventura, qui est un type extrêmement intelligent, contrairement à ce que l'on pense, et qui avait une carrière universitaire devant lui à 30 ans, magnifique, en droit public. Eh bien, il a tout lâché pour aller être commentateur
du Benfica. C'est génial. C'est incroyable.
Commentateur de sportif et un peu après commentateur de cas de crime.
Ouais.
Et il lui manquait la lumière, évidemment. Et je crois que c'est sur ces segments-là qu'il a compris qu'il y avait cette niche dont j'ai parlé tout à l'heure, lui aussi.
Et alors, puisqu'on est dans les 50 ans, justement, ce qui est intéressant, quand on regarde les voisins pas si loin d'Italie, de Giorgia Meloni, par exemple, on voit bien que cette extrême droite-là, elle est capable de se réclamer du fascisme et même d'une forme d'héritage de Mussolini. Pas du tout chez vous, en fait. Votre extrême droite à vous et votre André Ventura, effectivement, effectivement ne se réclame pas un instant de Salazar et consorts. Jamais.
Non, parce que s'il existe une petite nostalgie au Portugal du temps de Salazar, bon, il est très... Bah, c'est toujours la petite, petite pourcentage dans tous les pays d'adeptes d'idéologie fascisante. Non, mais par contre, il sait y faire allusion. Par exemple, il avait adopté des mots d'ordre, si vous voulez, ou des devises qui Dieu, patrie, famille, travail. Oui, oui. Alors là, Salazar et Pétain ensemble, c'est magnifique. C'est pour faire peut-être plaisir en France, sait-on jamais. Mais effectivement, il peut faire allusion à cela, mais il est plutôt ouvert vers le monde contemporain, mais souverainiste, axé sur... Mais je pense d'une façon opportuniste, parce qu'il y a beaucoup d'opportunisme chez André Ventura, il sait déceler très intelligemment le mouvement, le vent chez l'électorat, il sait s'y adapter. Et je pense qu'il y a aussi chez lui, donc, il a bien compris que ces thèses xénophobes anti-immigration ne prenaient pas, du moins jusqu'à présent, c'est pas sûr que ça continue comme ça, mais jusqu'à présent ne prenaient pas, et bien il s'en est pris très violemment à la minorité ethnique gitane au Portugal, et ça lui a donné quelques votes.
Si on essaye de faire une espèce de comparaison, on adore jouer à ce jeu-là, Ana Navarro-Pedro, peut-être qu'on se trompe, mais on le voit bien, commentateur de télé, on parle du foot, on parle de crime, donc on voit tout de suite avec une casquette qui ressemblerait plutôt à celle de Trump, mais quand je vous écoute parler, j'entends bien quand même des relents qui ressemblent un peu plus à quelque chose entre le Rassemblement National et Reconquête chez nous. Donc en fait, où est-ce qu'on le met ? Est-ce qu'on
peut le mettre dans une case ou pas ? Il est proche de Marine Le Pen, il est proche très proche du Rassemblement National. D'ailleurs, il aura maintenant des députés, eurodéputés sûrement aux européennes. Et il a déjà organisé avec Marine Le Pen l'entrée de ses eurodéputés dans le groupe qui a été créé par Marine Le Pen au Parlement européen et groupe identitaire.
Vous nous avez expliqué, Ana Navarro-Pedro, que donc les jeunes, les régions qui ont été traversées par la crise, pour laquelle l'austérité, la période à partir de 2011 a été extrêmement brutale, donc on a entendu ça. Les abstentionnistes aussi, ceux qu'on ne voyait pas dans les élections.
Juger en fonction de ce qu'ils font. Une chose, c'est promettre des choses.
S'ils sont appelés à gouverner, vous dites, ça veut dire que vous êtes capable de le projeter déjà.
Écoutez, ces élections européennes, très rapidement, les élections de mars ont donné deux grands blocs, Parti socialiste et droite conservatrice traditionnelle, qui a que deux sièges d'avance. La droite a formé un gouvernement sans alliance avec Chega, qui a 50 députés sur 200.
Un million de voix.
Ou 230. Eh bien, la droite a dit non, c'est non. Pas d'alliance avec eux. Mais du résultat de ces élections dépend la survie de ce gouvernement. Et d'autres caciques du parti de droite disent c'est une erreur stratégique ne pas faire alliance avec l'extrême droite. Donc, en juin, je pourrais mieux vous répondre, mais ce n'est pas exclu.
Donc, vous ne croyez pas tellement au non, c'est non, à ce fameux cordon sanitaire qui, pour l'instant, existe au Portugal.
Il existe bien de la part de ce Premier ministre, mais il est contesté au sein de son parti, donc il peut sauter.
Si vous comparez avec vos voisins, avec les voisins de Vox, par exemple, là aussi, est-ce que vous avez le sentiment d'une émergence ? Parce qu'au fond, les deux pays se ressemblent aussi à bien des égards sur la fin de leur dictature, sur le début de leur démocratie. Est-ce qu'il y a des porosités ou pas du tout ?
Il y a une certaine porosité, mais qui a ses limites, parce qu'en fait, le cas espagnol est un peu différent. Le franquisme n'a jamais disparu d'Espagne. Tandis qu'au Portugal, le salazarisme, quand même, malgré cette petite frange dont je parlais tout à l'heure, est bien mort et enterré chez nous. Faut dire aussi que le franquisme en Espagne a permis quand même un certain développement économique du pays, et le salazarisme
au contraire,
nous a maintenu dans un retard immense. Donc, il y a des différences.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peu de chances pour qu'on remette les choses dans le dentifrice, dans son tube, et que ce mouvement d'extrême droite revienne en arrière. Comment vous regarder justement les élections européennes, est-ce que ça veut dire aujourd'hui, nous c'est marrant parce qu'on posera la question au téléphone sonne dans un instant, on se demande si on vote Europe ou si on vote France évidemment dans ces élections, au regard de ça et de cette montée-là, au Portugal, est-ce qu'on vote Portugal à ces élections européennes ? Est-ce qu'on vote Europe ? Vous êtes un pays particulièrement européen, probablement plus que nous.
Beaucoup plus que vous. Beaucoup plus que vous. Nous sommes le pays au sein de l'Union européenne qui admire le plus le Parlement européen, qui croit le plus que Bruxelles, que le Parlement, surtout les parlements europarlementaires, ont un impact, leur politique ont un impact direct sur la vie des citoyens chez nous. Ce que vous ne croyez pas du tout en France, vous êtes 17%, je crois, au 27 à le penser. Et en règle générale, jusqu'à présent, les Portugais votaient pour les enjeux qui se dessinaient à Bruxelles ou à Strasbourg, en fonction des rapports de force issus des élections européennes. Cette fois-ci, il y a la question de la survie du gouvernement. C'est un enjeu important. Je ne sais pas, on croit que quand même l'électorat de droite se mobilise plus que l'électorat de l'extrême droite. Mais tout est en suspens, tout est en ouvert. Mais on s'inquiète et on s'intéresse surtout aux enjeux politiques européens quand même, malgré l'enjeu national.
Quand même, hein, et donc visiblement plus que nous. Est-ce que c'est lui, cet homme-là, celui pour l'instant qui amène Chega là où il est, qui sera celui qui poursuivra cette route, ou est-ce que c'est un homme intermédiaire au fond pour un mouvement d'extrême droite qui est plus important?
Ventura?
Oui, Ventura.
Chez nous, c'est lui, évidemment. Entre sa personnalité, sa gouaille, et je dis, maintiens
son intelligence. Mais justement, est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'au fond, sans Ventura, ça n'existe pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière?
Non, il a su fédérer des gens autour de lui, notamment sa tête de liste pour les Européennes, c'est un ancien ambassadeur du Portugal. Quelqu'un de rompu, qui a été à Pékin, qui a été dans les Balkans, qui a été à Londres.
C'est le sens de ma question, il n'y a pas que du venturisme, en fait.
Non.
Voilà, pas que du venturisme et un peu
d'aventurisme. Il a bien appris la leçon de Marine Le Pen, d'ailleurs.
Voilà, pour ces raisons, vous pensez?
Peut-être.
Bah, écoutez, à suivre, en tout cas, à la fois pour les élections européennes, mais aussi au-delà, on vous a entendu, Ana Navarro-Pedro, vous êtes correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais. Comment je l'ai prononcé, très mal?
Visao, mais pas Visao. Il y en a d'autres aussi.
Mais allez, pas que. Ça vous donnera l'occasion de revenir. Merci vraiment beaucoup.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe au Japon qui vient d'inaugurer en grande pompe, figurez-vous, un gros baleinier. Le baleinier, c'est l'avenir du Japon, c'est sa fierté, la baleine, c'est son repas aussi, et c'est ce que Karine Nishimura va nous raconter pour aller jusqu'à 19h. Céline Aslo, sous les radars.
Et on part notamment en Allemagne où une photo du président devant un kebab géant suscite l'indignation des Allemands d'origine turque.
Le Monde à 18h50, c'est vous, Franck Madvon. Bonsoir, Franck.
Bonsoir, Fabienne, bonsoir à tous. Le sort des otages à Gaza, de nouveau au cœur de l'actualité israélienne. Pour beaucoup d'Israéliens, ce sujet doit être la priorité.
Et la tech, la première, Stéphane Jourdain. Salut Stéphane.
Bonsoir Fabienne. La Russie pilonne la France de fausses informations, explique le gouvernement. Eh bien, on va regarder à quoi elles ressemblent, ces fausses informations.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète, ce n'est pas fini. Vous avez le temps d'aller manger une glace à Austin, Texas. Ice Cream et les Black Pumas. C'est dans Un jour dans le monde et c'est sur France Inter.
ご唱和をお願いいたします。それではご注目をいただきましょう。参ります。せーの、おめでとう。
Et bienvenue au Japon, la musique qui nous accueille, c'est la musique officielle d'un bateau baleinier tout juste inauguré. Voyez comme c'est grandiloquent, contre vent, critiques et marées, le Japon veut amplifier la chasse à la baleine dans ses eaux côtières. Il a donc construit un nouveau navire amiral prêt à œuvrer au cours des 30 prochaines années. Si le reste, c'est Karine Nishimura qui raconte.
Il trône en majesté dans le port de Shimonoseki, capitale japonaise de la chasse à la baleine. Le Kangemaru est le premier navire amiral baleinier construit au Japon en 73 ans, un bâtiment de facture totalement inédite. Yoshihisa Ina, un des dirigeants de Kyodo Senpaku, la société exploitante.
C'est un navire amiral baleinier unique qui regroupe un bateau usine et un bateau cargo. En un sens, on pourrait presque dire que c'est un bateau expérimental.
La partie basse de ce bâtiment à propulsion électrique de près de 113 mètres de long, 21 de large et quelques 9200 tonnes ressemble à un immense atelier d'usine. Une porte gigantesque s'abaisse pour former une rampe avec une inclinaison faible à 18 degrés permettant d'y charger des baleines de très gros calibre repérées à l'aide d'un drone embarqué. Explication du matelot Shimoda.
On hisse ici par l'arrière la baleine qu'on a pêchée, puis on la découpe directement sur place. Nous prévoyons de chasser des baleines de type rorqual commun de 70 tonnes et de les préparer ici.
Pour tailler la bête, il faut une dizaine de techniciens.
On arrive à découper une baleine en environ une heure à la main avec des gros couteaux. Les morceaux sont mis en sac pour être congelés en mode rapide en 6 heures à moins 40 degrés. L'ensemble de la chaîne de préparation mobilise environ 50 personnes.
Le Kangemaru peut contenir jusqu'à 800 tonnes de viande congelée. Il partira pour une première mission en mai vers l'est et le nord du Japon et reviendra en décembre à son port d'attache après plusieurs escales en cours de route. Quelques 100 personnes prendront place à bord.
Il y a l'équipage de pilotage, celui des machines, le personnel qui s'occupe de la découpe et congélation de la baleine, les cuisiniers et les techniciens de radiocommunication.
Kyodo Senpaku est le fer de lance japonais de la chasse à la baleine. Le pays a réactivé la pêche des cétacés pour le commerce et la consommation en 2019 après avoir quitté la commission baleinière internationale l'année précédente et mis fin ainsi à un moratoire de 3 décennies. Il s'agit désormais d'encourager la consommation de viande de baleine auprès d'une nouvelle clientèle. Yoshihisa Ina.
Nous aimerions élargir la clientèle aux jeunes et aux touristes étrangers en offrant une qualité de viande de baleine différente de celle du passé.
Le porte-parole du gouvernement japonais, à l'instar d'autres élus du très conservateur Parti libéral-démocrate au pouvoir, salue la construction de ce nouveau bateau, martelant que le Japon veut entretenir sa tradition de chasse à la baleine en respectant des quotas de prise et sans nuire à l'environnement, une position que contestent des organisations écologistes.
Karine Nishimura sur son baleinier, merci beaucoup. La suite, c'est l'actualité internationale qui vous a échappé, attrapée au vol par Céline Aslou, c'est sous les radars. Et nous sommes d'abord en Slovaquie, Céline, où les journalistes du groupe audiovisuel Public étaient tous habillés en noir aujourd'hui.
Oui, du noir en signe de protestation contre le projet de loi qui vient d'être adopté par le gouvernement slovaque et qui prévoit une réforme en profondeur du groupe RTVS, groupe des radios et des télévisions publiques de Slovaquie. Alors ça fait plusieurs mois que les employés s'y attendaient, ils ont multiplié les actions comme ce clip que vous venez d'entendre pour tenter de faire part de leur inquiétude devant les attaques répétées du nouveau gouvernement populiste au pouvoir depuis l'année dernière. La RTVS s'est rendue coupable d'activisme politique, c'est ce que dit la ministre de la Culture, Martina Simkovičová, qui est elle-même une ancienne journaliste télé et qui est membre du Parti National Slovaque, qui est un parti d'extrême droite. Le groupe va donc changer de nom et il va surtout changer de règles. Selon ce projet de loi, c'est le Parlement et le ministère de la Culture qui nommeront les membres du conseil d'administration de la RTVS. RTVS. L'intention du gouvernement est de créer une télévision d'État, dénonce l'opposition, d'imposer son contrôle, dit Reporters sans frontières, qui dénonce une mainmise politique sur le gros audiovisuel public.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
et direction l'Allemagne maintenant, où un kebab géant tourne à l'affaire politique.
Oui, cela partait pourtant d'une bonne intention du président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui est en visite d'État cette semaine en Turquie pour resserrer les liens entre les deux pays, ce qui est un enjeu important puisque 5 millions de personnes originaires de Turquie vivent aujourd'hui en Allemagne. Et le chef de l'État voulait montrer à quel point cette communauté turque était intégrée, à quel point les traditions culinaires venues de Turquie avaient nourri la gastronomie allemande. Il a donc eu l'idée d'embarquer à bord de son avion un kebab géant de 60 kilos surgelé qui a été servi lors d'une réception officielle à Istanbul par un chef allemand d'origine turque. Steinmeier prenant la pose pour les photographes, un couteau à la main devant l'immense broche de viande. Sauf que le résultat n'a pas été celui escompté. En témoigne ce message parmi beaucoup d'autres publié par un journaliste sur le réseau social X. Un scientifique germano-turc a découvert le vaccin le plus efficace contre le Covid. Un cinéaste germano-turc a été nominé cette année aux Oscars. Mais c'est un kebab que le président amène en Turquie. L'opposition dénonce de son côté un cliché digne des années 60.
Vamos a ver esto que pasó en las instalaciones.
Nous voilà maintenant au Mexique, où cette fois c'est un poulet qui est au cœur du scandale, dites-moi.
Oui, un poulet sacrifié lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du jour de la Terre, en offrant lieu au dieu Tlaloc, le dieu de la pluie dans la mythologie aztèque. Alors de quoi indigner les défenseurs des animaux, mais pas seulement, car cette cérémonie d'offrande a eu lieu dans l'enceinte du Sénat mexicain, et qu'elle était présidée par un sénateur nommé Adolfo Gomez. La cérémonie était même annoncée sur les réseaux institutionnels du Sénat. Alors la scène a été filmée, diffusée sur Internet, provoquant une vague d'indignation. Plusieurs associations ont rappelé que les sacrifices d'animaux, les mauvais traitements étaient interdits par la loi dans la ville de Mexico. Le Sénat se désolidarise, parlant d'une initiative personnelle et promet de prendre des mesures disciplinaires. Mais l'intéressé lui invoque les coutumes préhispaniques. Adolfo Gomez brandit même la constitution mexicaine qui stipule qu'il convient de respecter les traditions des peuples d'origine de son pays.
Céline Naslo, merci beaucoup. Céline, et à très vite. Bah tiens, vous partez en passant devant un diner. Celui de Tom et de Suzanne Vega, indémodable. Vous êtes dans Un jour dans le monde.
Sitting in the morning, the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It's always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. Open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet.
Gaga, Tom's Diner sur France Inter. Le Monde à 18h presque 50, c'est Franck Madvon.
Fabienne Saint-Pès. Le 18-20.
Franck, la vidéo diffusée hier par le Hamas d'un jeune otage à Gaza replace au cœur de l'actualité israélienne la question des otages. Ce soir, vous nous expliquez pourquoi ce sujet continue à diviser profondément la société israélienne.
Il s'appelle Hersh Goldberg Pauline, il a 23 ans, la double nationalité américaine et israélienne, et c'est lui qui apparaît dans cette vidéo que le Hamas a diffusée hier sur sa chaîne Telegram. La vidéo serait récente, l'otage dit avoir été capturé il y a 200 jours, un cap qui vient d'être franchi. Il n'avait pas été revu vivant depuis le 7 octobre. Il fait partie des personnes enlevées lors du festival de musique Nova. Hersh Goldberg Pauline a été grièvement blessé le jour de l'attaque du Hamas. Dans la vidéo réalisée par définition sous la contrainte, il montre son bras gauche amputé sous le coude. Face à la caméra, il accuse le gouvernement Netanyahou d'abandonner les otages. Vous devriez avoir honte pendant que vous partagez des repas en famille. Pensez à nous qui vivons l'enfer. Allusion à Pessah, la Pâque juive célébrée cette semaine.
Et Israël dénonce la guerre psychologique menée par le Hamas. Franck.
Le mouvement palestinien donne une preuve de vie d'un otage demandé par les négociateurs, mais il expose aussi les souffrances qu'il inflige lui-même aux captifs pour faire pression sur le gouvernement israélien, impuissant face au sort des quelques 130 otages encore à Gaza, dont 3 Français. Un quart d'entre eux auraient été tués d'après les estimations israéliennes. Leurs familles continuent à se mobiliser. Les parents de Hersh Goldberg Pauline eux-mêmes appellent les médiateurs internationaux à trouver un accord avec le Hamas pour libérer les otages. Hier soir, des centaines de personnes ont marché jusqu'à la résidence du Premier ministre Netanyahou à Jérusalem et une nouvelle manifestation a eu lieu aujourd'hui même à Tel Aviv.
Les familles, Franck, ont le sentiment de ne pas être assez soutenu.
Oui, depuis environ 3 mois, le débat a évolué en Israël. Oui, la population soutient les opérations dans la bande de Gaza, mais beaucoup d'Israéliens demandent désormais au gouvernement d'en faire plus pour libérer les otages. Les tergiversations sur un possible nouvel accord avec le Hamas exaspèrent l'opinion. Le dernier document sur la table prévoit la libération d'une 40aine d'otages correspondant à certains critères, des femmes, des mineurs, des personnes âgées, des malades, en échange de prisonniers palestiniens. Mais ces discussions sont bloquées. D'un côté, le Hamas exige un arrêt des combats. C'est seulement à ce prix qu'il cédera des otages, son seul principal, en tout cas, moyen de pression. De l'autre, Israël ne veut pas donner au mouvement palestinien la moindre chance de reconstituer ses forces.
Israël veut d'abord démanteler le Hamas, Franck.
C'est l'obsession de Benjamin Netanyahou et la raison pour laquelle il veut à tout prix lancer une offensive à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. La ville est présentée comme le dernier bastion du Hamas où s'entassent 1,5 million de personnes. Et l'opération pourrait démarrer dans quelques jours, quelques semaines. Il n'y a plus guère de doute. Des civils ont déjà été déplacés et mis à l'abri en prévision de l'attaque au sol. Depuis le 7 octobre, Israël poursuit, on le sait, 2 objectifs. Détruire le Hamas et libérer les otages. Pour Netanyahou et les durs du régime, le premier objectif éclipse aujourd'hui clairement le second. De plus en plus d'Israéliens veulent inverser les priorités.
Franck Madvon et Le Monde à 18h50. Merci beaucoup. Le jeudi, quand le numérique va nous dévorer, la tech la première et Stéphane Jourdain sont là.
France Inter. Le 18-20.
Stéphane, la France est pilonnée par la propagande russe, c'est ce que répète depuis quelques jours le ministre aux Affaires européennes, Jean-Noël Barrot. Et Stéphane, aujourd'hui, vous mettez un coup de projecteur sur les dernières attaques informationnelles d'envergure. C'est comme ça qu'on les appelle, et ces attaques qui visent évidemment la France.
Et oui, et d'abord une tentative de déstabilisation qui mobilise les services français depuis quelques jours. Attaque en cours d'investigation par les autorités dont personne ne voulait me parler cette semaine. Et si cette opération crispe un peu tout le monde, c'est qu'elle est en cours et qu'elle est très virale sur les réseaux sociaux. Nous parlons d'une vidéo de 20 secondes censée montrer un déploiement de troupes et de blindés français à Odessa, grande ville portuaire ukrainienne.
The first 1,000 French troopers arrived in Odessa area and most
Je vous explique ce qu'on voit sur cette vidéo. 3 camions militaires transportant des blindés à chenilles et ce qui ressemble à une rampe de lancement de missiles. Le commentaire en anglais affirme que 2000 soldats français sont en train d'arriver à Odessa. En haut de l'image, légende en anglais, les premières forces françaises à Odessa, le tout surmonté d'une date, 21 avril 2024. Tout ça est totalement faux. Le service de fact-checking de l'AFP a analysé les éléments de décor de la vidéo qui montrent qu'il s'agit de troupes polonaises filmées en Pologne. Mais le mal est fait. À minima, j'ai pu décompter 200 000 vues sur YouTube, X et TikTok. Mais je n'ai vu qu'une partie immergée de l'iceberg. Signe de sa viralité, j'ai retrouvé cette vidéo dans des tweets relayés en japonais, en tchèque ou en allemand.
Et alors, les opérations de déstabilisation de la propagande russe comme celle-là, Stéphane, se multiplient. Vous en avez recensé au moins 4 autres depuis un mois.
Oui, le 3 avril dernier, un faux communiqué du ministère de l'Intérieur, très bien fait, affirme à tort que les critères d'accueil des jeunes réfugiés ukrainiens ont été durcis, documents vus au moins 130 000 fois. 4 jours plus tôt, c'est un faux site de recrutement qui a été débusqué, sophistiqué, très crédible là aussi, s'engager pour l'Ukraine. Il fait croire que la France recrute pour aller se battre en Ukraine. Le site est resté en ligne 2 semaines avant d'être fermé le 28 mars dernier. La veille, c'est une fausse vidéo en français attribuée à RFI qui est arrivée sur les sites pro-russes avec petite musique de fond spéciale réseaux sociaux. Elle fait croire que des soldats ukrainiens soignés dans des hôpitaux français ont provoqué un début d'épidémie de tuberculose. Enfin, depuis quelques semaines, une fausse infographie signée AFP fait état d'une vague d'annulation dans les hôtels pour les JO à Paris en raison de l'insécurité supposée qui régnerait en France. Bref, ça s'accélère, nous confirme Jean-Noël Barrot, ministre délégué à l'Europe, qui est un peu devenu le ministre des ingérences étrangères.
Il ne se passe plus une semaine sans que nous constations que la France est la cible de campagnes coordonnées, structurées, qui sont attribuées à la Russie de Vladimir Poutine ou à ses courroies de transmission.
Mais alors, Stéphane, ces opérations de déstabilisation, elles s'accélèrent, mais elles ne sont pas nouvelles.
Non, on avait déjà parlé à ce micro en février dernier de l'opération Portal Combat qui a permis aux autorités françaises de révéler l'existence d'un réseau de propagande pro-russe reposant sur 193 sites. Certains en français sont d'ailleurs encore bien actifs au moment où je vous parle. Et pour Julien Nocetti, chercheur associé à l'IFRI, spécialiste de la Russie et des conflits numériques, cela fait maintenant 10 ans que la Russie met en œuvre ce genre d'opération, mais avant, on regardait ailleurs.
Ça a commencé dès 2014, dès l'invasion russe de la Crimée, où les Russes à l'époque essayaient de tester leurs différentes opérations d'influence, ponctuées aussi de tentatives de cyberattaques plus ou moins contrôlées. Donc ça a été une phase de test à laquelle on prêtait peut-être moins attention effectivement en France, parce que notre regard était davantage tourné vers la menace terroriste de Daesh. Mais pour le coup, cette quasi-décennie écoulée a été quand même pour les Russes l'occasion d'une montée en puissance. Ce qui est peut-être plus notable, c'est justement en fait la prise de conscience, qui est peut-être le point le plus saillant de cette politique française beaucoup plus affirmée actuellement.
Alors il reste la question essentielle quand même, l'efficacité de ces attaques.
Eh bien on a posé la question à Jean-Noël Barrot.
Dès lors qu'un doute s'installe sur la légitimité et la sincérité du scrutin, dès lors qu'une campagne de désinformation est soupçonnée d'avoir porté atteinte au scrutin, c'est une atteinte en soi à l'intégrité du process électoral et donc une atteinte portée à la démocratie.
En fait, le ministre et pas mal de responsables français sont traumatisés par ce qu'ils appellent l'antécédent slovaque. Octobre dernier, élection législative, le leader du parti progressiste, victime d'un deepfake audio. Dans une fausse conversation avec un journaliste, il dit qu'il va truquer les élections. L'enregistrement est posté 2 jours avant le second tour, en pleine période de réserve. On ne saura jamais quel rôle ça a joué, mais le candidat a perdu alors que les sondages le donnaient gagnant. Et pour la petite histoire, le candidat visé est un pro-européen qui soutient l'OTAN et il a été battu par un candidat proche de Moscou. Vous comprenez pourquoi les Français s'inquiètent à l'approche du scrutin du 9 juin. Mais pour Julien Nocetti, le risque, ce n'est pas tellement que ces manipulations parviennent à changer le cours des élections européennes.
Moi, je jointerais davantage, en fait, le risque à plus long terme, qui est de voir des récits, effectivement, russes pour russes, s'enraciner dans la population. Ces récits pro-russes ne macèrent pas dans ces boucles Telegram ou dans des cercles fermés. Ils deviennent quasiment mainstream par moment. Et c'est là, en fait, où le danger est bien présent, parce que ça rend, en fait, les contre-réponses d'autant plus délicates à mettre en place.
Le risque, c'est donc surtout que la Russie parvienne à imposer son récit à une partie de la population française.
Stéphane Jourdain et la Tech La Première tous les jeudis dans Un jour dans le monde, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h. Avec Hélène Filly, juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir, puisque la campagne est lancée, puisqu'Emmanuel Macron a fait son grand discours, ce qu'on a envie de vous demander, de demander à nos auditeurs, c'est et vous, alors, où est-ce que vous en êtes dans ces élections européennes?
Alors par mail, Hélène, je vote pour les européennes depuis 1979, les premières. Donc je suis à
atterré par ces campagnes qui deviennent uniquement des élections franco-françaises, baromètre de la prochaine présidentielle. Jean-Paul, sur WhatsApp, il est difficile de voter européen lorsque on a le choix qu'entre des listes nationales qui, pour la plupart, s'appuient sur des enjeux bassement politiciens, rien sur les enjeux de l'Europe face au monde, donc je ferai comme les autres. Je voterai pour la liste qui semble la moins franco-centrée. Eh oui, c'est la tonalité ce soir. Clément, sur WhatsApp, les Français restent attachés au roi, à la royauté, et considèrent le président comme un roi de droit divin. Les Français ont-ils compris l'importance d'un Parlement, a fortiori européen?
Eh bien, dites-moi, 01 45 24 7000 pour discuter avec nous. C'est le même chemin par WhatsApp, et à tout de suite.
France Inter en podcast, ce sont toutes vos émissions préférées à la carte.
Affaires sensibles.
Les quatre policiers sont sous le choc. Ils reprennent leur esprit et constatent les faits. Le sac à main de la victime, ses papiers.